Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Je salue aussi, comme à l'accoutumée, les auditeurs pirates, en les rappelant qu'il faut qu'ils régularisent leur situation. Alors aujourd'hui, nous apprêtons à faire une émission qui va être un petit peu triste, parce que nous allons recevoir M. Bertrand Ferrier. Bonjour M. Ferrier.
Bonjour monsieur.
Qui a écrit un livre qui est plutôt très drôle, dans les quelques pages que j'ai pu lire, sur le métier d'organiste. Et donc, je vais d'abord vous demander... excusez-moi, bonjour Annette.
Oh, ça y est, il m'avait oublié déjà. Vous vous rendez compte? Oui. Bonjour Vincent, moi qui suis tellement contente de vous retrouver dans ces murs.
Hein. C'est l'émotion qui m'a...
Voilà, je pense que c'est ça. Je dis bonjour aussi à tous les auditeurs, bien entendu, et à Bertrand Ferrier, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. Nous enregistrons cette émission, nous sommes le 9 novembre, et elle passera le 27, et ça sera la Saint-Séverin. Je ne résiste pas au plaisir, comme à l'accoutumée, de vous donner un petit résumé de ce grand saint qui était un ermite à Paris et qui est mort environ en 540. Touché par le désir de mener une vie contemplative, il s'enferma dans une petite cellule sur les bords de la Seine. Il eut de nombreux disciples, dont Saint-Cloud, et les Parisiens qui venaient nombreux se recommandaient à ses prières. Il fut enterré au lieu même de son ermitage, qui est devenu la paroisse parisienne de Saint-Séverin, et dont l'église demeure encore un asile de silence, comme un ermitage dans ce quartier débordant de vie.
Ah ben je vous remercie, parce qu'il y a autant de choses que nous ne savions pas, mais nous connaissons l'église Saint-Séverin, qui est magnifique, avec cette colonne torse derrière le chœur, et qui est extraordinaire. Et où j'ai fait un concert il y a bien bien longtemps, avec les solistes de l'orchestre de l'Opéra.
Voilà, alors, j'étais sûre que ça vous plairait.
Alors ça, c'était la présentation d'un premier saint, mais il y en a un second ici. Vous avez quelque chose à nous dire sur M. Ferrier?
Alors, M. Ferrier, je suis allée chercher sur Internet, bien sûr. Sur Internet, on trouve tout. Et j'ai un petit résumé à vous proposer.
Allez-y, on va
sur Bertrand. Alors, il est suspendu entre ciel et terre. Et vous ne le verrez sans doute jamais. Pourtant, les pieds dans le bourbier du réel, caché dans les nuages des hauteurs, il était là au mariage de vos parents, il est là maintenant que vous voulez vous marier à votre tour, il sera là à l'heure de votre mort. Ombre qui accompagne vos plus grandes joies et vos plus intenses désespoirs. L'organiste en sait long sur vous et vous ne soupçonnez même pas son existence. Ce livre est la clé pour découvrir le monde secret et envoûtant de l'orgue, la face cachée des églises de France et les petites choses que l'organiste sait de vous et de lui.
Bon. Alors, Bertrand Ferrier, d'abord, avant d'être avec cette position d'humour derrière votre profession, votre beau métier, il y a eu des raisons qui vous ont porté à le faire. Quelles étaient-elles?
Je pense que j'ai toujours été fasciné par l'orgue. C'est un instrument extraordinaire. J'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit. On était dans une famille nombreuse. On est toujours, d'ailleurs, je suis toujours issu d'une famille nombreuse, où on a toujours fait de la musique. En l'occurrence, moi, j'ai joué des flûtes à bec, de la clarinette, du piano. Et un jour, à l'église de ce qui était encore un village, qui est devenu une ville de 15 000 habitants, il n'y avait pas d'organiste. Il n'y avait plus d'organiste.
De quelle ville s'agit-il?
De Domont, dans le Val d'Oise. Mm-hmm. Alors, si on veut faire chic, on dit que c'est à côté d'Enghien-les-Bains. Sinon, on dit que c'est à côté de Sarcelles. Les deux sont vrais. Et dans cette ville, donc, il n'y avait plus d'organiste. Et je suis monté à l'orgue pour accompagner un office. Et j'en suis redescendu de temps en temps, mais pas plus qu'une semaine.
Je conçois très bien. Et alors ensuite, vous avez fait des études très sérieuses?
Très peu, très peu. Je suis un enfant ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement des acquis de l'expérience professionnelle. Mm-hmm. Ça fait 25 ans que je suis organiste. Ça fait 25 ans que j'ai toujours pas fait de conservatoire.
C'est un peu tard maintenant.
Je pense que je suis mort là-dessus. Et néanmoins, ça fait 25 ans que je suis engagé professionnellement ou de façon amateur à mes débuts pour accompagner des messes. Et c'est pourquoi ce livre raconte une expérience particulière d'organiste qui est l'organiste liturgique, qui a certes besoin de savoir jouer un instrument, surtout l'orgue, c'est quand même un petit peu mieux, mais qui a aussi besoin d'autres connaissances, d'autres expériences. Et ce livre raconte la dualité entre la théorie de ce qu'est un organiste et la réalité de ce qu'est un organiste liturgique, ce que je suis.
Alors, question extrêmement indiscrète, êtes-vous croyant ?
C'est une question à laquelle je ne réponds pas pour une raison que je vais expliquer. Du coup, je préfère expliquer pourquoi je ne réponds pas plutôt que...
Oui.
Je ne suis pas un fanatique des postures d'organistes qui se disent soit athées et donc qui viennent faire le job, ou soit croyants façon successeur médiocre d'Olivier Messiaen. Et donc, je raconte en fait ce que je vois, moi, mais pas ce que je pense, même si je pense qu'en lisant le livre, on finira par découvrir, non pas si je suis croyant ou pas, mais ce que je pense de certaines attitudes et de certaines façons de pratiquer ou de faire semblant de pratiquer.
Mais pourtant, en choisissant le métier d'organisme liturgique, vous intégrez à cette liturgie.
C'est un travail. S'intégrer à la liturgie est un travail et doit rester un travail. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose qui est tout le temps dans l'extase du service rendu à Dieu ou même à une paroisse. C'est quelque chose qui doit être cadré à la fois par l'envie de rendre service à un employeur, à un objectif transcendantal, à des gens qui parfois n'ont aucun objectif transcendantal, mais en même temps, votre employeur vous demande un objectif transcendantal. C'est quelque chose qui doit être cadré par des conventions collectives très prosaïques, mais qui permettent aussi d'exprimer la gloire de Dieu. Et je ne suis pas le premier à le dire, je pense que Bach était le premier à critiquer quand on ne respectait pas son travail, alors que lui s'est toujours revendiqué comme un organiste extrêmement croyant.
Certes. Mais ce faisant, en étant dans la pris dans la liturgie, on est pris dans un rituel, et si vous y restez 25 ans plus tard, c'est que cet aspect-là, pour vous, est quelque chose d'intéressant ou de plaisant.
Je pense que l'intérêt de l'organisme... En fait, je vais faire une petite parenthèse, mais je pense qu'on va retomber sur
votre question. Mais aussi grande que vous voulez. Hein.
Quand j'ai écrit ce livre parce que ça fait 25 ans que je joue de l'orgue, mais ça fait 20 ans que j'écris des livres. Et parmi les livres que j'ai écrits, il y a des livres qui racontent des histoires de vie d'autres personnes. Et pendant longtemps, on m'a demandé, mais pourquoi tu n'écris pas un livre sur ta vie d'organiste? Parce que c'est quand même rigolo, un orgue, quand on sait à quoi ça ressemble, et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quand on souffre dessus, c'est moins rigolo, mais sur le principe, c'est un instrument extrêmement intrigant, extraordinaire.
Ah oui, il y a sûr qu'il y a une fascination. Pour moi, je dis en petit garçon, mais je suppose que c'est pareil pour les petites filles. On regarde là-haut sur la tribune, on voit l'orgue, on entend jouer, on a forcément quelque
chose. C'est magique, absolument magique.
Magique,
c'est
absolument
extraordinaire. Et donc, on me demandait pourquoi je racontais pas ça. Et en fait, l'organiste comme l'écrivain, en tout cas celui qui joue de l'orgue et celui qui écrit des livres, ont une particularité, c'est qu'ils développent un organe qui n'est pas connu de la médecine, mais qui est la paresse. Et ça, cet organe, il est extraordinaire parce qu'il vous donne des raisons à tout. Et moi, j'ai développé un très gros organe de paresse.
Vous savez qu'on a un illustre prédécesseur quand même. C'était M. Baudelaire qui disait qu'il trouvait merveilleux justement dans ce que vous venez de dire. Et qu'il trouvait toujours de bonnes raisons dans la couleur des roseaux de sa chambre de faire croire qu'il ne faisait rien. Enfin, de croire qu'il réfléchissait alors qu'en fait, il ne faisait rien.
Exactement. Alors, je ne prétendrai pas Baudelaire, mais et d'ailleurs, ceux qui liront le livre s'en apercevront, mais je sens bien cet organe que nous pouvons développer. Alors, peut-être même en n'étant ni écrivain ni musicien, ça arrive.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas que là qu'il y a des paresseux. Il ne faut pas croire qu'on s'est attribué.
Non, mais on développe en revanche une paresse assez spécifique. C'est un organe qui est intellectuel. C'est-à-dire qu'on a des bonnes raisons. Et là, en l'occurrence, ma bonne raison, c'était « c'est pas intéressant ». Sois modeste, c'est pas intéressant. Sauf qu'à un moment, l'intellectuel que je suis aussi s'est dit il faut renverser la table. En fait, c'est ça ce qui est aussi intéressant chez l'intellectuel, c'est qu'il se dit à un moment, je vais trouver des raisons à ce qu'il n'en a pas et prouver le contraire de ce qui est évident. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Et je me suis dit, dans la vie de l'organisme, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est que c'est un métier qui ne sert à rien. plombier, on voit bien. Prof, on peut imaginer quand ça se passe bien. Homme politique, si on est convaincu, on peut concevoir. Mmh. Organiste, franchement, pour la plupart des gens, il n'y en a aucune. Alors ailleurs, Bach, mais il est mort en 1750, il y a prescription. Donc ça, c'était la première idée. C'est inutile, et justement, c'est intéressant l'inutile. Et la seconde idée, c'est que nous, en tant qu'organistes, nous croisons des gens au moment les plus cruciaux de leur existence, comme vous l'avez rappelé, Annette. C'est-à-dire, on va les croiser au moment de leur mariage, donc parfois au moment de leur naissance, de leur conception,
du baptême,
donc de leur entrée dans l'Église, qui pour un croyant, et même si aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas, mais enfin ça devrait être un moment extrêmement important, au moment de leur mort, alors on appelle plus ça mort dans l'Église, mais enfin c'est quand même à ça que ça ressemble, en tout cas au moment de leur convoi, de leur adieu. Et donc je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de rapporter cette expérience pour raconter comment la transcendance est vécue aujourd'hui. Ça paraît prétentieux, mais dans le livre, c'est extrêmement concret, puisque d'un côté, je raconte, il y a un chapitre, les chapitres impairs racontent une sorte d'analyse sur comment on joue de l'orgue, qu'est-ce qu'on fait à l'orgue, pourquoi on joue, quand est-ce qu'on joue dans la messe, pourquoi on joue pas qu'aux messes, mais aussi dans les synagogues et dans les temples. Et puis, chaque chapitre pair est une sorte de journal qui raconte des expériences vécues et qui permettent de concrétiser un peu ce qui pourrait paraître abstrait. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est une façon de dire comment on reste organiste et pourquoi on essaye de l'être malgré tous les inconvénients qu'on peut trouver, comme dans n'importe quel métier.
Alors on pourrait peut-être écouter un premier extrait de ce que vous avez choisi, de musique d'orgue, si je suis prêt à le parier. Et alors, vous avez choisi un extrait interprété par Yannick Daguerre, qui joue sur l'orgue de la collégiale
de Saint-Martin-de-Montmorency.
Saint-Martin-de-Montmorency, donc qui était titulaire de cette église où vous allez de temps en temps tenir l'orgue, mais vous êtes titulaire ailleurs.
Voilà, je suis adjoint à Montmorency, c'est-à-dire que je m'occupe des cérémonies qui ont lieu notamment durant toute la semaine officiellement travaillée, c'est-à-dire du lundi au vendredi, c'est moi, plus y affinité, et le reste c'est Avelino Marino, qui est le titulaire actuel de la collégiale. Et à un moment, au grand orgue, et le grand titulaire, le titulaire emblématique, reste Yannick Daguerre, que l'on va entendre maintenant.
Et dans quelle œuvre ?
Dans une paraphrase, une libre pensée autour des tableaux de l'exposition des
Mussorgsky.
Des tableaux de l'exposition de Mussorgsky.